l'Iran et la Chine prônent l'élargissement de la coopération mutuelle dans différents domaines. L'armée turque et ses supplétifs ont pilonné les villages de Tal Tamer et Abu Rasin, en ouest de la province d'Osaka, dans le nord de la Syrie. Et au Mali, des milliers de manifestants protestent contre les sanctions de la CEDEAO. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue chinois, Wang Yi, ont souligné la nécessité d'élargir la coopération mutuelle dans différents domaines. Le chef de la diplomatie iranienne est arrivé en Chine jeudi après-midi à la tête d'une délégation politique de haut rang pour s'entretenir avec les autorités chinoises. Au cours d'une réunion vendredi 14 janvier, les ministres iraniens et chinois des Affaires étrangères ont exploré des pistes pour renforcer les relations bilatérales dans divers domaines tels que les questions politiques, économiques, commerciales, consulaires et culturelles. Le chef de la diplomatie iranienne a exprimé la volonté de Téhéran de développer des relations totales avec la Chine. Amir Abdollahian a salué la coopération constructive de la Chine dans la fourniture de plus de 110 millions de doses de vaccins contre le COVID-19. Abordant l'approbation de l'Iran concernant l'ouverture du consulat général de Chine à Bandar Abbas, il a exprimé l'espoir que cette décision faciliterait les interactions et les liens commerciaux entre les deux pays. Son homologue chinois a pour sa part souligné la volonté de Pékin de développer la coopération dans les domaines du financement, de l'énergie, de la banque et de la culture, malgré les sanctions illégales imposées aux Iraniens. Faisant référence au plein soutien de la Chine à la position logique de l'Iran envers la politique américaine dans le cadre du plan d'action global conjoint, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine soutiendrait les positions iraniennes dans les pourparlers de Vienne. Les États-Unis doivent compenser leur retrait de l'accord nucléaire 2015, a-t-il insisté. L'armée turque et ses supplétifs ont pilonné les villages de Tal Tamar et Abu Rasin, en ouest de la province de Osaka, dans le nord de la Syrie. L'armée turque et ses mercenaires ont lancé dans la nuit de vendredi à samedi 15 janvier une série d'attaques à l'artillerie contre les villages d'Al-Dardara et Al-Abouch situés dans la localité de Tal Tamer ainsi que contre le village de Tal Al-Vard qui se trouve dans la localité d'Abu Rasin en nord-ouest d'Asak. Pendant ces dernières années, l'armée turque a renforcé sa présence militaire dans le nord de la Syrie sous prétexte de lutter contre les éléments du PKK et mène de temps à autre des attaques dans les régions du nord de la Syrie, dont Asaka. Le vendredi 14 janvier, l'armée arabe syrienne et les forces de défense nationale ont lancé une nouvelle opération militaire au sud de Deir ez-Zor. L'opération vise à sécuriser la zone d'Al-Zouaïr, qui est située entre les villes d'Al-Mayadin et d'Al-Boukamal. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté que les forces de l'armée syrienne recherchaient des membres de Daesh qui avaient intensifié les agissements à Al-Baïza depuis début janvier. Cette opération a été épaulée par les forces aérospatiales russes, dont les avions de combat ont bombardé les repères des terroristes dans les déserts de Raqqa et de Deir ez-Zor. Les récentes frappes aériennes russes qui ont visé la périphérie de la ville d'Al-Resafa au sud de Raqqa ont fait 11 morts et une vingtaine de blessés parmi les terroristes. Les attaques menées de temps à autre par les cellules de Daesh contre les positions des soldats syriens au sud de Deir ez-Zor ont probablement poussé Damas et Moscou à s'acharner sur les terroristes. Le 12 janvier, les terroristes s'en sont pris à une position de la direction du renseignement de l'armée de l'air syrienne près de la ville d'Al-Kashma. 3 officiers ont été tués et 5 autres ont été blessés. Le 13 janvier, les terroristes ont attaqué plusieurs positions des forces de défense nationale près de la ville d'Al-Boukamal. 5 membres des forces de défense nationale ont été tués et 14 autres ont été blessés. La nouvelle opération syro-russe ferait probablement reculer les cellules de Daesh hors du désert de Deir ez-Zor, au moins pendant un certain temps. Une opération plus globale est nécessaire pour nettoyer complètement la région centrale de la présence des terroristes. Au Yémen, les combattants d'Ansarallah ont sécurisé quelques 1200 km² de la province Al-Jawf au cours de l'opération Aube du désert avant d'y consolider leur position. Ils ont également réussi à prendre contrôle d'un autre secteur très important de la route stratégique d'Al-Bura al-Hasm. Cette route s'étend du nord-est de la province de Sada, la base la plus importante d'Ansarallah, au sud de la province d'Al-Jawf. Récemment, les combattants de la résistance yéménite ont libéré environ 118 km de cette route et seuls 14 km en sont occupés. Les secteurs occupés de cette route sont situés au nord de la zone Al-Yatima. Si les combattants d'Ansarallah se rendent maîtres de cette axe, cette route de la province d'Al-Jawf sera entièrement sûre et elle sera hors de portée des mercenaires de l'Arabie saoudite. Les opérations des combattants yéménites se poursuivent sur l'axe nord-est de la province d'Al-Jawf pour assurer la sécurité des zones stratégiques limitrophes de la province de Sada et des provinces du sud de l'Arabie saoudite. Par ailleurs, Ansarallah a repoussé une autre attaque à Chabwa et à Marib, infligeant de lourdes pertes aux mercenaires soutenus par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le 14 janvier, les combattants d'Ansarallah ont repoussé une autre attaque des brigades des géants soutenues par les Émirats arabes unis dans les provinces yéménites de Chabwa et Marib. Les combattants d'Ansarallah ont tiré 4 missiles balistiques et un drone kamikaze sur les bastions des éléments des brigades des géants à Ain et Arib. Des dizaines de mercenaires ont été tués ou blessés dans cette attaque hybride de la résistance yéménite. Il y a 2 jours, Ansarallah a tiré des missiles sur les mercenaires des brigades des géants à Ain et Arib. Des milliers de Maliens ont manifesté vendredi 14 janvier contre les sanctions de la CEDEAO. Au même moment, le colonel Assimi Goïta a validé un plan de riposte gouvernementale aux sanctions ouest-africaines. Les Maliens ont manifesté massivement vendredi 14 janvier à Bamako et à travers le pays contre les sanctions ouest-africaines et les pressions internationales qui ne faiblissent pas. Parés des couleurs nationales vert, jaune et rouge, des milliers de manifestants ont commencé à se masser dans la capitale. Certains manifestants ont passé la nuit sur le boulevard, desservant ce haut lieu des manifestations maliennes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule dense marchant derrière le drapeau national dans les rues de Kadiolo, frontalière de la Côte d'Ivoire. Scène analogue à Bougouni, également dans le sud. Le nom du président russe, Vladimir Poutine, a été scandé pour exprimer le vœu nourri par une partie de la population d'une intervention russe. Le chef du gouvernement a remercié la Russie et la Chine de s'être opposés mardi à l'adoption du Conseil de sécurité d'un texte soutenant les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les chefs d'État et des gouvernements des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont adopté dimanche de lourdes sanctions contre le Mali en réponse au retard pris dans la tenue des élections après une transition de 18 mois. Le gouvernement du colonel malien Assimi Goïta a proposé le mois dernier une période de transition de 5 ans, arguant que la sécurité chronique rendait impossible la tenue d'élections en toute sécurité. La fermeture des frontières avec de nombreux pays frontaliers membres de la CEDEAO fait naître des inquiétudes au sein de la population. Le Mali est un pays enclavé dont l'approvisionnement en denrées dépend beaucoup des échanges commerciaux avec ses voisins comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Mali peut compter sur le soutien de la Guinée. Dans un communiqué lu lundi soir sur les antennes de la télévision nationale, les autorités guinéennes ont fait savoir que les frontières du pays resteraient ouvertes au Mali. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Kazakhstan. Moscou a averti le sultan. Moscou s'attend à ce que la Turquie s'abstienne de faire des déclarations mal avisées sur le Kazakhstan et évite de tenter de pêcher en eau trouble, a déclaré le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Nous nous attendons à ce que les responsables turcs continuent de s'abstenir à faire des déclarations irréfléchies à haute voix, a-t-elle déclaré lors d'un briefing. Commentant la déclaration d'un responsable turc décrivant le Kazakhstan comme un pays qui s'est d'abord libéré de l'oppression soviétique, alors que certaines forces menaceraient maintenant de le mettre sous un joug insensé. Cette situation tragique, complexe et extraordinaire pour le Kazakhstan, a nécessité une conjugaison d'efforts et ne doit certainement pas être considérée comme une opportunité de nuire et de pêcher en eau trouble, a averti Zakharova. La Turquie, d'une part, est membre de l'OTAN et cherche à adhérer à l'Union européenne et de l'autre, a acheté le système de défense antimissile S-400 à la Russie et tente de renforcer ses relations avec Moscou. Les allégations de la Turquie sur le Kazakhstan interviennent après que Devlet Bahçeli, secrétaire général du Parti d'Action Nationaliste, MHP, a présenté une carte baptisée « Le monde turc » au président turc Recep Tayyip Erdogan en novembre 2021, dans laquelle il a considéré tous les territoires turcophones d'autres pays où réside une des minorités turques et musulmanes comme faisant partie du territoire de la Turquie. La démarche de Bahçeli a provoqué de nombreuses réactions des médias. Un journal grec a répondu en écrivant « Ce plan qui met en scène les idées néo-ottomanes et les interventions étrangères d'Erdogan montre la longue liste de pays des Balkans, d'Asie centrale et de Russie, en passant par des parties de la Chine avec des minorités musulmanes ouïghours qui pourraient être considérées comme territoire turc. Ceci est un cadeau fait par Bahçeli à Erdogan. » De son côté, le quotidien turc Yeni Akit indique que Bahçeli a présenté une carte qui s'étend de la mer Adriatique à la Chine pour secouer le monde et faire la une des journaux russes selon lesquels ce cadeau contient un message. Le jeudi 13 janvier, après 2 semaines de troubles au Kazakhstan, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la mission de la force de maintien de la paix de l'Organisation du traité de sécurité collectif OTSC au Kazakhstan était terminée. Lors d'une rencontre avec son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, Poutine a déclaré « Dans l'ensemble, il est temps de rentrer à la maison. Nous avons fait notre travail. » Il a salué les efforts du ministre de la Défense, du chef d'état-major général et d'autres responsables qui ont dirigé la mission. Dans ce contexte, l'agence de presse russe Aviapro a rapporté que la Russie avait mis à l'eau les plans de la Turquie d'inclure le Kazakhstan dans le Grand Touran en envoyant des troupes au Kazakhstan qui y ont réprimé les terroristes et en empêchant le coup d'État dans le pays. Il a été suggéré que les manifestations de masse au Kazakhstan qui ont dégénéré en une attaque terroriste pourraient être liées à la Turquie qui souhaite étendre sa zone d'influence et inclure le Kazakhstan dans le soi-disant Grand Touran. Si le président Poutine hésitait ne serait-ce qu'une minute, la situation au Kazakhstan serait entre les mains des Turcs. De sérieuses spéculations ont émergé selon lesquelles la décision de Moscou d'envoyer des soldats de la paix de l'OTSC au Kazakhstan pourrait être une frappe préventive contre son très proche partenaire, la Turquie. Car il est possible que si les dirigeants russes avaient même un peu hésité, les Turcs auraient résolu la situation. De plus, l'actuel président Kassim Jomart Tokayev a adressé une demande à l'ETSC et non à Ankara. Les choses semblaient bonnes pour la Turquie, mais maintenant, il doit faire face à la Russie. La Russie est le grand gagnant. La question est maintenant de savoir ce qui va se passer ensuite. Si vous partez maintenant, alors dans moins d'une semaine, comme le laissent entendre certains chefs militaires locaux, les ONG turques et les politiciens kazakhs pro-turcs commenceront à couvrir activement le sujet de l'intervention et l'occupation russe, rapporte la publication SOA. Il est à noter que les médias pro-turcs ont déjà fait plusieurs publications accusant la Russie d'envahir le Kazakhstan. Cependant, il est bien évident qu'après l'intervention de la Russie dans la situation au Kazakhstan, il a été possible non seulement de démontrer la force de l'ETSC et d'éliminer la menace terroriste, mais aussi de stopper les projets de la Turquie d'inclure le Kazakhstan dans le Grand Touran.